C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Monsieur Trudeau a nommé, la veille des cérémonies marquant l'attentat à la mosquée de Québec, une représentante spéciale à la lutte contre l'islamophobie. Elle s'appelle Amira El-Gawabi. Ça a pris 10 minutes pour découvrir un texte écrit quelques années où elle traitait une majorité de Québécois d'islamophobes et de racistes. Alors, la grande question, est-ce qu'on la garde en poste ou on la fait sauter? Nathalie.
Bien, on la garde en poste, Paul, et peut-être un élément de contexte. Cette nomination n'est pas le fruit du hasard. C'est le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes qui a déposé un rapport. À l'époque, le comité était présidé par Jim Carr, un député qui est décédé depuis. Ils ont proposé dans leur rapport qui portait sur l'extrémisme violent à caractère idéologique au Canada, c'est le nom du rapport, déposé en juin dernier, la nomination d'une représentante spéciale à la lutte contre l'islamophobie. Donc, Justin Trudeau fait suite à cette recommandation des parlementaires de la Chambre des communes. Alors, pourquoi il ne faut pas la congédier? Parce que, bon, ces déclarations qu'elle a faites, publiées dans le Ottawa Citizen en 2019 contre la loi 21, bien sûr, sont malheureuses. Justin Trudeau a exprimé son inconfort face à ce qu'elle a déclaré à l'époque. Puis je vous cite, elle a déclaré à ce moment-là, elle a écrit dans la lettre publiée avec un autre auteur, « Malheureusement, la majorité des Québécois semblent influencés, non pas par l'état de droit, mais par un sentiment anti-musulman. » Et là, elle ajoutait, elle référait à un sondage publié par la firme Léger en 2019 pour l'Association des études canadiennes. Le sondage est important parce que c'est un sondage qui nous apprenait que 88% des Québécois qui avaient une perception négative de l'islam appuyaient la loi 21. Donc, Justin Trudeau a exprimé son inconfort. Elle a précisé sa pensée, Mme El-Gawabi, en déclarant que, ben, pour elle, je ne crois pas que les Québécois sont islamophobes. En fait, Pierre Poilievre a appelé à son départ et je pense qu'il faut résister à ce jeu politique parce que Pierre Poilievre et d'autres élus ne font que mettre de l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce que ils font jouer des populistes en évacuant le cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est la montée de l'islamophobie, du racisme au Canada. À peu près tous les experts qui se sont exprimés sur le sujet depuis déjà plusieurs mois interpellent le gouvernement fédéral. Il faut faire quelque chose pour contrer ce phénomène grandissant. Alors, je pense qu'il faut éviter de clouer au pilori cette dame, lui donner sa chance et s'est expliqué. Maintenant, ben, il faut se pencher sur le cœur du problème.
Luc. Bon, premièrement, moi, je pense qu'il faut souligner que c'est un enjeu qui n'a absolument aucune importance. Il aurait nommé quelqu'un pour nommer des prénoms aux baleines, que ça aurait été pareil. Madame El-Gawabi va faire partie d'un comité au sein du ministère du Logement, de la lutte à la discrimination, dans lequel mandat, l'islamophobie n'est même pas mentionnée. C'est Hamed Hussein qui est le ministre, fort compétent d'ailleurs, un homme très impressionnant, qui a été d'ailleurs un activiste pour les droits de la personne, pour différentes formes d'humanisme, un universitaire aussi. Il a reçu un mandat de Trudeau. Dans le mandat de Trudeau, il est question de la défense des Autochtones, la défense des femmes, la défense des Noirs. La défense des Juifs, donc, la lutte à l'antisémitisme. Pas un mot sur l'islamophobie. Ça, c'était en 2021, fin 2021. Ça fait que là, il regarde les cartes, puis politiquement, il regarde, bon, ben la mosquée, les célébrations de l'attentat à la mosquée, pas le crime, les crimes multiples à la mosquée de Québec s'en viennent. On n'a pas un mot dans le mandat sur la lutte à la discrimination. On fait un geste d'éclat, on nomme une personne. Ça va être quoi, sa job à cette personne-là? Ça va être de participer à des comités qui vont déterminer où s'en vont les subventions. Alors, il y a un lot de subventions qui doivent être partagées. Antisémitisme, féminisme, affaires autochtones, personnes noires. Et ça, c'est la première partie de sa job qui va occuper 70% de son temps. L'autre 30%, ça va être de s'asseoir dans des comités qui vont dessiner des politiques pour s'assurer que dans l'ensemble des ministères, il y ait des politiques qu'on prenne en compte toutes ces dimensions-là dans chacune des politiques. Et ça donne des résultats stupéfiants, là. La politique du Canada sur les pistes cyclables, il doit avoir 30 pages sur l'inclusion et la diversité là-dedans, sur les pistes cyclables. Alors, ça, c'est des gens qui s'assoient dans le fond de la classe, puis qui, une fois de temps en temps, ils lèvent la main. Oui, mais on a oublié telle phrase. Donc, la lutte, elle est... moi, je serais, là, moi aussi, ce que j'accepte pas, cette job-là, là. Elle va tomber en dépression, là. Pas besoin de la sortir nous-mêmes du poste, là. Non, elle va tomber en dépression. C'est des jobs, c'est de l'Ottawaïste, de l'Ottawaïsme. C'est une science qui n'appartient qu'à Ottawa. C'est de l'idéologie poussée à son maximum qui ne mène à rien, à peu près à rien. C'est du partage de subventions. C'est tout.
Ben, premièrement, Luc, cette dame a été nommée après les recommandations d'un comité de parlementaires à Ottawa, un comité transpartisan. C'est le comité permanent de la sécurité publique et nationale qui a fait cette recommandation en juin 2022. Bon, tu peux faire peut-être un lien entre les événements de la Grande Mosquée, mais il y a quand même un fait, c'est qu'il y a des députés qui se sont réunis. Puis d'ailleurs, sache qu'il y a un comité des droits de la personne du Sénat actuellement qui mène une consultation à travers le pays, qui mène des audiences sur le phénomène de l'islamophobie et du racisme.
Oui, Nathalie, et tout cela n'a même pas réussi à faire inscrire l'enjeu dans la lettre qui définit le mandat du ministre. C'est incroyable.
Écoute, la lettre mandat a été définie avant les conclusions de ce comité de parlementaires. Deuxièmement,
non, juin 2021.
Oui, mais le comité en question a rendu son rapport en juin 2022. La lettre mandat a été rédigée un an avant les conclusions du comité des parlementaires de la Chambre des communes. Mais au-delà de ça, tu sembles, peut-être que je me trompe, ben, l'impression que tu donnes ce matin, c'est que tu sens minimiser le phénomène lié à l'islamophobie, au racisme. Faut juste se rappeler que derrière tous ces phénomènes, il y a la montée de l'extrême droite au pays et au Québec. Et le Québec ne fait pas exception à la règle, malheureusement. Rappelez-vous, en mai 2021, le Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux a publié un rapport dans lequel on apprenait que la montée de l'extrême droite au Québec, c'est une réalité. Beaucoup plus d'événements violents au Québec depuis 10 ans liés aux discours haineux, aux agressions haineuses que dans le passé. 521 événements violents en 10 ans liés au groupe d'extrême droite entre 2010 et 2020. Alors, il y a plusieurs experts qui disent au pays, écoutez, il faut poser des gestes parce qu'il y a eu les événements de la Grande Mosquée. Il y a aussi ce couple de 4 personnes musulmanes tuées par un chauffeur. Ils ont été ciblés par le chauffeur parce qu'ils étaient musulmans. Et moi, je vous invite à lire une lettre parue hier dans la presse que j'ai trouvée absolument extraordinaire, signée par Hassan Guillet, qui est imam. Et dans cette lettre, et je trouve qu'en quelques phrases, il a résumé l'état d'esprit actuellement, notre état d'esprit comme société, dit « Il ne faut pas tenir les Québécois ou les Canadiens de confession musulmane responsables de ce qui se passe ailleurs dans le monde. De la même façon que les Québécois ne sont pas responsables du crime haineux de l'auteur de la tuerie dans la mosquée. Il faut éviter les amalgames. C'est ce qu'il dit pour éviter que ça devienne que on reparte en guerre contre les musulmans ou contre les Noirs ou contre les Asiatiques. Rappelez-vous la crise qui nous a occupés pendant des années sur les accommodements raisonnables. On n'a plus le goût de rejouer dans ce film-là. On a failli rejouer avec la loi 21. Enfin, moi, je trouve que, Luc, il ne faut pas minimiser ce qui se passe.
Non, mais j'espère que tu ne penses pas que je minimise. Je t'ai fait l'hypothèse que je minimisais. Je ne sais pas dans quoi tu as trouvé ça, cette hypothèse-là.
Non, mais c'est parce que tu ridiculises le mandat de cette dame.
Mais non, je te dis que la job qu'elle va avoir, là, lutte à l'islamophobie, là, ça consiste à s'asseoir à Ottawa puis de s'ostiner avec la lutte antisémite puis la lutte anti-noire pour les budgets. C'est ça la job, OK? Fait que c'est juste de dire, voici l'enjeu que nous avons devant les yeux, là. Ça, c'est un. Deuxièmement, cette idéologie d'Ottawa que j'ai appelée l'ottawaïsme, ce qui consiste à dire on va rédiger toutes les lois et règlements en s'assurant que dedans, il y a un mot sur les femmes, un mot sur les juifs, un mot sur les arabes, etc., ça mène nulle part. La vraie lutte à l'islamophobie et à toute forme de racisme, là, ça commence par des villes où tu peux te loger. Ça commence à s'assurer que tu peux pas faire venir une fille au père des Philippines puis pas la payer parce que tu t'en sers comme femme de ménage. Ça commence par éliminer le système de travail temporaire avec une obligation de l'employeur. Donc, tu es lié à cet employeur-là, quelle que soit la façon dont il te traite. Ça commence par prendre 2 ans pour traiter une demande d'asile politique. Ça commence par pas prendre 4 ans pour traiter une demande d'immigration. C'est ça, la lutte à l'islamophobie. Puis attends, j'ai pas terminé mon point.
Ouais,
c'est dans la vraie vie. C'est de donner de la dignité. C'est de donner du pouvoir aux minorités. C'est de les aider à s'intégrer. Ce que va faire Mme El-Gawabi, là, c'est bon pour les journaux, là. La vraie vie, c'est ailleurs.
Ouais, mais la lutte, quand tu dis la lutte au racisme dans la vraie vie, elle s'incarne dans nos institutions. Et au Canada, au Québec, on a ce qu'on appelle la Charte des droits et libertés. Autant au Québec qu'au Canada. Justin Trudeau, c'est le premier ministre, Luc, que tu le veux ou non, qui a des convictions en matière de protection des droits des minorités. Et je sais là que c'est pas ton préféré,
arrête avec ça, il y en a aucun de préféré là.
Non, mais
un préféré. Est-ce que je dis du bien de poignard par hasard?
Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, Luc, honnêtement.
Non, je dis bien,
bien que tu n'aimes pas Justin Trudeau.
Non, voyons donc, je l'aime pas. C'est sûr que je l'aime pas. Je le critique. J'ai pas l'air de l'aimer. Mais je critique Legault, je critique tout le monde. Il y a personne que je ne critique pas.
Des fois, on a l'impression que c'est personnel entre toi et Justin Trudeau, tellement, mon Dieu.
Ah, ben, on va aller prendre une bière. Justin, je t'invite à aller prendre une bière. Comme ça, il verra que c'est pas personnel.
Non, mais tu comprends, Luc. Alors, à travers cette lutte au quotidien, tu as raison. Une personne discriminée à cause de sa couleur parce qu'elle porte un voile ou un turban qui ne peut pas se louer un appartement, c'est épouvantable en 2023, mais ça existe.
C'est vrai que ça existe, mais il y avait des auteurs en fin de semaine qui rappelaient que tu ne peux pas dire laïcité ou recherche de la laïcité, ça égale islamophobie.
Ben non, la Cour...
Absolument,
attends,
je suis d'accord avec toi.
Non, mais c'est parce qu'il y en a qui font ce lien-là.
Totalement, mais attends, il y en a. À peu près tout le Canada anglais fait ce lien-là. À peu près tous les libéraux font ce lien-là. Trudeau a fait ce lien-là. Bob Rae a fait ce lien-là. À peu près tout le monde a fait ce lien-là dans le Parti libéral. Et la Cour européenne de justice a dit... La Cour européenne de justice a accepté l'idée selon laquelle tu peux... il n'est pas discriminatoire d'interdire les signes religieux au travail. La Cour européenne de justice, pas la Cour municipale d'Hérouville.
Non, mais Luc, écoute, on va voir, là. La cause est pendante devant les tribunaux, une partie de certaines dispositions de la loi 21. Mais que tu affirmes que on associe islamophobie, laïcité, c'est évacuer l'importance que prête le gouvernement de Justin Trudeau à la protection des droits fondamentaux. Ça, c'est majeur dans notre société.
Il protège rien tant qu'il protégera pas le logement.
Et moi, je trouve ça...
Un immigrant peut pas s'installer à Vancouver. Un immigrant peut pas s'installer à Toronto. Un immigrant peut plus s'installer à Calgary. Un immigrant peut pas s'installer à Ottawa. Un immigrant peut pas s'installer à Montréal. Je commence par s'occuper des vraies affaires.
On s'arrête là-dessus?
Ouais. Calme-toi, là.
OK, on s'arrête là-dessus. Au retour, est-ce que les élus municipaux ont un mot à dire sur le développement minier?
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, il semble que quand on pense à développer le territoire, puis on a le cas régulièrement des projets miniers, on consulte tout le monde. Le fédéral a quelque chose à dire, le provincial a quelque chose à dire. Est-ce que les élus municipaux devraient également participer au débat? Luc.
Absolument. Donc, ils se sont rassemblés à plusieurs reprises et puis là, ils l'ont demandé le retrait de l'article 246 de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. C'est quoi ça? C'est un article qui dit que les demandes pour des mines passent avant toute règle d'urbanisme, donc avant la loi LAU, la loi d'aménagement et d'urbanisme. Et il dit ça n'a aucun bon sens. Ça peut pas. Tu peux pas avoir une gestion de ton territoire si un claim minier a préséance sur toute volonté de protection du territoire. Protection de volonté de protection de l'eau douce. Par exemple, le cas des Esquerres en Abitibi, là, une des meilleures eaux du monde. Et on n'a pas le droit de la protéger parce que la loi ne le permet pas. C'est pas que l'élu local ne voudrait pas ou que le ministre ne voudrait pas. Et le ministre a dit, ben OK, je suis prêt à réviser les claims qui s'en viennent, mais il faudrait que les groupes communautaires fassent la démonstration que ceci est nécessaire ou fondamental pour la région. Comment ça, les groupes communautaires, en vendant des Smarties assortis des dépanneurs, puis en espérant qu'ils vont avoir assez d'argent pour faire des études qui vont convaincre des mines de ne pas s'installer là? Voyons donc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une réforme de la loi. Dans l'Anaudière, là, le nombre de claims a bondi de 408%. À la fin de l'année 2022, là, 267 000 claims qui étaient enregistrés au ministère des ressources naturelles. Donc, ça augmente sans cesse. C'est très important. C'est en croissance. Et on n'a pas d'outils pour déterminer, pour protéger. Il n'y a pas de protection de la nature. Ça n'existe pas un outil de protection de la nature au Québec. On a des lois et règlements qui permettent de protéger certains aspects de la nature. Par exemple, on peut protéger les espèces en danger. On peut protéger des espèces de flore et de faune en danger. Donc, on peut aussi protéger des milieux humides. Mais il y a toujours un élément dans chacune de ces lois-là qui permet de la contourner. Par exemple, milieu humide, tu peux t'en sortir si tu fais une compensation financière ou si tu recrées un milieu humide ailleurs. Donc, il n'y a pas de protection absolue. Tu peux pas dire que ce carré-là, là, c'est no way, vous n'allez pas dedans. Et donc, ce qui se permet, sauf les parcs nationaux, et donc ce qui permet à des minières de demander, à la, par exemple, à la sortie du parc de Kimika, de dire, ben nous, on veut installer une mine juste à côté du parc national. T'en as pas de loi. Ce qu'on a besoin, c'est une réflexion nationale sur la nature qu'on veut protéger et en faire un droit fondamental. Et là, avoir une dérogation, un pouvoir de dérogation. Cette fois-là, ce serait extrêmement utile. Cette loi-là serait protégée par un pouvoir de dérogation. Tu ne peux pas contester cette loi-là.
Ben, tout d'abord, Luc, c'est faux de dire qu'il n'y a rien qui protège l'environnement au Québec. Il y a le BAP. Et lorsque le ministre de l'Environnement émet son certificat pour autoriser un projet minier, par exemple, ou un projet éolien de voir le jour sur le territoire, souvent est rattaché à ce certificat un certain nombre de conditions respectées par le promoteur. Deuxièmement, j'ai envie de te dire, mon cher Luc, ce matin, il ne faut pas rêver en couleur. Le gouvernement va toujours, en toutes circonstances, conserver le dernier mot pour ce qui est des projets miniers. C'est vrai que ce que les élus ont soulevé, c'est vrai que c'est un problème qui est réel. Les élus, oui, devraient avoir leur mot à dire, mais il faut éviter de confondre être impliqué dans le processus, avoir son mot à dire. En amont, par exemple, la prise de décision qui permettrait à un promoteur de s'installer dans une municipalité XYZ et un droit de veto, c'est-à-dire un droit de vie ou de mort sur les projets. Parce que il suffit souvent de quelques citoyens qui sont mécontents d'une initiative, par exemple dans le secteur des mines, on prend cet exemple-là, pour qui mettent de la pression sur les élus. Et là, les élus, évidemment, ne sachant pas trop comment résister à la pression, décident de s'écraser devant des perspectives de création d'emplois qui pourraient être bonnes pour leur territoire. Et là, que je sais de quoi je parle, j'ai occupé les deux postes. J'ai été aux ressources naturelles, j'ai été ministre aussi des affaires municipales, aussi mairesse. Alors, comme toi qui étais maire, mais dans un contexte où les élus sont souvent pris à partie, pris à mal dans ce genre d'initiative. L'exemple de Saint-Michel-des-Saints est un bon exemple, avec la mine de graphite qui va se déployer probablement sur leur territoire. Nouveau Monde Graphite, c'est le promoteur. Il faut pas oublier que là, le gouvernement, parce que c'est comme si le gouvernement parlait des deux côtés de la bouche en même temps. Monsieur Legault a dit il y a pas longtemps, en septembre dernier en fait, il a affirmé qu'il y aurait pas de mine sans acceptabilité sociale au Québec. Et de l'autre côté, on a un gouvernement qui veut faire du secteur minier, entre autres le secteur des mines et des matériaux stratégiques, une fer de lance sur le plan économique au Québec. Puis il y a une grande pression qui va s'exercer dans les communautés où on retrouve des minéraux stratégiques, entre autres le graphite, le lithium. Deux statistiques, là. La demande mondiale pour le graphite, par exemple, d'ici 2050, va croître de presque 500% et celle du lithium de plus de 480%. C'est donc dire que, et le Québec a décidé d'embarquer dans cette stratégie pour faire du Québec une référence mondiale pour ce qui est, entre autres, de la filière batterie. On veut mettre en lumière nos gisements de graphite pour, par exemple, faire naître une filière à Bécancour pour ce qui est des batteries.
Est-ce que je comprends que ce que tu dis, c'est qu'on ne devrait pas donner, je comprends que le gouvernement ne le fera jamais, là, mais sur le principe, on ne devrait pas donner le pouvoir aux municipalités d'arrêter un projet ou de bloquer un projet?
Ben, c'est-à-dire que, non, moi je trouve que c'est beaucoup trop de pouvoir. Par contre, je veux nuancer.
Okay.
S'il y a une incompatibilité évidente avec certains, avec le territoire, par exemple, Luc parlait des parcs nationaux, mettons, des milieux humides, là, ça me semble évident qu'on ne peut pas aller de l'avant. Mais la ligne, c'est facile pour un élu je vais pas dire de résister, mais c'est difficile pour eux souvent de résister à la pression des citoyens qui, eux, sont contre tout développement minier, par exemple, sur leur territoire. Alors, il faut
mais
trouver...
Oui, pour l'instant, c'est l'inverse, Nathalie. Pour l'instant, même s'il y avait...
C'est vrai, ce Luc, c'est l'inverse.
Ben, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir.
Ben, je dirais pas qu'ils ont aucun pouvoir, Luc. Le BAP est là. Le BAP, lui, dans le fond, puis je sais que peut-être que tu vas être en désaccord avec moi.
Moi, je suis allé faire sécher mon gros cul sur les chaises du BAP pendant des années pour les faire réfléchir à des aspects, par exemple, des autoroutes, etc. Je peux-tu dire que ma voix comptait pas?
Ben c'est drôle, c'est grâce au BAPE qu'on n'a pas gêné le Québec. C'est pas vrai, ça. C'est grâce au BAPE, c'est grâce au BAPE qu'on n'a pas gêné le Québec.
C'est grâce à l'étude qui a déterminé que finalement, les bélugas qui étaient à l'entrée du Saguenay étaient là en période de gestation. Et c'est ça qui a dit, ben non, là, on peut vraiment pas faire le projet.
Oui, mais le BAPE a fait son travail quand même. C'est juste qu'il faut trouver.
C'est une étude indépendante qui a été commandée
par
Québec.
Le bon équilibre, parce que moi, je me souviens de l'épisode des gaz de schiste au Québec, là. Écoute, j'étais élue à ce moment-là, et c'était impossible. Le lobby écologiste, environnemental, c'était pas misé avec
la campagne de peur. Oui, mais pour l'instant, Nathalie, c'est le contraire. Nathalie, pour l'instant, là, même si toute la population...
C'est ce que je crains, mon cher Luc, que le rapport de force s'inverse.
Mais toi, tu crains pas l'inverse.
Oui, moi, ce que je crains, c'est que les élus deviennent partout
au Québec... Mais par contre,
Des empêcheurs de développement.
Moi, tu crains pas, par exemple, qu'un demandeur de claim se présente dans un endroit, il a préséance sur toute la population, y compris le conseil municipal, y compris la MRC, parce qu'il y a en main un claim qui a payé 70$, puis que ce claim-là, selon la loi, a priorité sur la volonté de tous les citoyens.
Okay, Nathalie.
Ce qui est inacceptable, c'est qu'un promoteur se comporte comme il y a des gens, il y a des promoteurs qui ne font pas preuve de savoir-vivre.
Ben, on l'a vu dans le gaz de schiste, c'était des méchants cow-boys là, qui débarquaient, là.
Oui, absolument, tout à fait. Bien, le Québec a décidé de dire non à la filière des gaz de schiste. Écoute-moi, à l'époque, j'avais beau dire aux citoyens, on peut faire ce genre de développement en imposant des standards les plus élevés au Canada pour ce qui est de la mise en valeur de notre gaz naturel. Rien n'y faisait parce que l'opinion publique était cristallisée autour de la peur ou des impacts liés à la mise en valeur de notre gaz de schiste. Moi, ce que je crains actuellement, puis je suis la première à dire, il faut respecter les citoyens dans le processus, mais il faut pas tomber dans une dynamique où ce sont les citoyens qui ont, ou les élus qui ont le droit de vie ou de mort sur un projet. Il faut pas que le développement économique, dans le fond, appartienne uniquement aux élus. On n'y arrivera pas, jamais.
Non, mais il y a des élus qui...
Luc, pour conclure.
OK, il y a des élus qui sont très conscients de ça. Il y a des élus qui vivent dans des régions ressources, qui ont accepté des projets de mines, de routes, de développement. Oui. C'est pas vrai que les élus vont bloquer. Et pour l'instant, c'est le contraire. Le développement économique est la valeur suprême reconnue par la loi, quelle que soit la pression des élus. Pour l'instant, c'est le contraire.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.